Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche jusqu'à midi. Avec ce matin, Fred Weiss, Olivier Giraud, Cyril Linette, Christophe Cessieux. Une heure exceptionnelle dans les grandes gueules du sport. Le CIO est sur RMC. Christophe Duby, directeur exécutif des JO au sein du Comité international olympique, est notre invité. Bonjour Christophe.
Bonjour et merci pour l'accueil.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, en préparant cette interview, Christophe, tout le monde m'a dit, tu vas voir, Christophe, c'est lui le vrai patron du CIO. Est-ce que c'est vrai ?
Mais jamais de la vie. Non, ça n'est pas vrai. C'est une grande équipe, le CIO. Je dirais même que le CIO, c'est une part certes essentielle du mouvement olympique, mais lorsqu'on vient ici sur une commission de coordination, ça dépasse largement ma position, qui est celle que vous évoquiez, directeur exécutif. Mais enfin, il y a bien des gens très importants dans le système, à commencer par Thomas Barr,
le président. Peut-être la cheville ouvrière des Jeux Olympiques.
Ah bah disons que depuis la candidature, effectivement, avec le système français, on se connaît extrêmement bien.
Très bien. Donc on m'a menti quand on m'a dit que c'était le vrai patron Christophe Duby, mais je retiendrai. Vous connaissez tout le monde autour de la table. Je vous les présente tout de même. Deux médaillés olympiques. Fred Weiss, c'était de l'argent, mais c'est quand même pas mal. Et puis Olivier Giraud, c'était de l'or, mais on a l'habitude au hand. Merci beaucoup. Vous deux, les deux médaillés, deux éditorialistes, Christophe Cessieux et Cyril Linette. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons le CIO dans cette émission. J'ai deux demandes pour vous. Déjà des réponses pas trop longues, parce qu'une heure, ça peut paraître long, mais c'est quand même assez court, car on a pas mal de dossiers à voir avec vous. C'est bon pour vous ? Réponse pas trop longue ?
Ça me va très bien.
Et pas trop de langue de bois, voire pas de langue de bois. Est-ce que ça aussi c'est possible ?
Transparence totale.
Parfait. Trois thèmes majeurs à voir avec vous. L'actualité des Jeux Olympiques de Paris, le CIO aussi, et la politique est confrontée aux différentes guerres dans le monde. Et puis les Jeux Olympiques dans le futur. C'est un dossier qui vous passionne, je le sais. Le premier thème, J-138 avant les Jeux Olympiques de Paris.
Les JO bloqués dans le métro.
Il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts. D'accord, parce qu'il n'y aura pas le nombre de trains.
Attention, si vous comptiez réserver des nuits d'hôtel pour les Jeux Olympiques, on le sait, les prix des chambres ont doublé et elles ont même triplé.
Elle sent le vomi, les vieilles poubelles, la scène.
Ça, c'est formidable.
Ah bah, comment,
ouais. C'est vrai. Il y a eu des engagements pris.
Vous, de vous venir.
Mais bon, oui, j'irai.
Voici le SOS d'un grand sportif. En détresse.
À 10h du matin, c'est 200 €. Le soir, la session de soir, 19h, 690 €. Pour voir la finale du 10 000 mètres.
On est passé sur vous, tout le monde pourra venir, ou en tout cas énormément de monde pourra venir, à les contraintes de sécurité nous poussent à diminuer la jauge.
Oui, ce concert des Enfoirés qui nous a beaucoup fait parler le week-end dernier dans cette émission. Les JO, un événement extraordinaire, un événement magnifique, et ce ne sont pas les GG, Christophe, qui vous diront le contraire, mais un événement qui divise aussi la société française. À chaque jour, sa polémique, l'affiche officielle, le concert des Enfoirés, la cérémonie, la billetterie, la scène, la sécurité. J'ai arrêté de lister, rassurez-vous. Bref, le JO bashing qui marche à plein régime. Première question, est-ce que vous vous attendiez à ça, Christophe Duby ?
Mais totalement. Dans le sens où vos collègues d'une autre très bonne radio font ce constat. Ils remontent dans le temps jusqu'en 2000, Sydney par ailleurs. Et puis ensuite, on passe sur Athènes, Rio, Londres. N'en jetez plus, même thématique. Le prix de la billetterie, les transports, la sécurité. Et ce qui n'est pas le cas à Paris, mais rajoutons à Rio les problèmes de construction. Donc oui, les thèmes sont toujours les mêmes. Et puis, d'une certaine façon, c'est logique. Les Jeux sont tellement impactants, il est normal que des questions se posent. Le traitement de ces questions-là, ça c'est autre chose. Mais par contre, le fait que des questions soient posées, y compris par les citoyens, c'est normal. Il faut savoir y répondre et je pense que les organisateurs ont été transparents.
Moi, je suis...
Cyril Linette.
Je suis, évidemment,
J'étais sûr que vous feriez cette réponse et je suis absolument certain que vous avez raison et qu'il suffit de fouiller dans les archives pour voir effectivement ce type d'environnement à quelques mois des Jeux Olympiques. En plus, c'est aussi très français, hein, cette forme d'autoflagellation. Néanmoins, j'ai écrit il y a quelques semaines une tribune assez remarquée dans les Échos que j'avais intitulée « Qui veut encore des Jeux Olympiques ?» dans laquelle, en fait, j'attribuais cette espèce ces espèces de polémiques permanentes et cette forme de désamour à quelque chose de très français qui était d'avoir ultra politisé les JO d'emblée et d'avoir cherché en fait à assigner aux Jeux Olympiques une ambition à mon sens à la fois démesurée et hors sujet. C'est-à-dire, si on écoute bien ce qui se dit autour des JO, il faut mettre fin au réchauffement climatique, il faut dépolluer la Seine, il faut rebâtir le nord de Paris et désenclaver la Seine-Saint-Denis, il faut relancer des carrières politiques. Chacun se pousse du col, chacun veut être sur la photo et d'avoir affirmé ces éléments-là comme objectif plutôt que comme conséquence naturelle de l'organisation des JO est pour moi une erreur. Les JO, ça brasse du monde, ça pollue, même si tout est fait pour que ça pollue le moins possible. Et ce sont des choses qu'il faut assumer, sinon on perd le sel de ce que sont les Jeux Olympiques, c'est-à-dire à une compétition sportive, des spectateurs, des téléspectateurs, et ensuite un héritage qui doit être le mieux contrôlé, le plus positif possible. Et donc, il se trouve qu'il y a deux semaines, je suis allé à Lausanne avec mes enfants visiter le musée olympique qui est magnifique. Et j'ai essayé de regarder au niveau de l'organisation du musée olympique ce qui était la part du sport et la part de l'héritage. Et dans le musée olympique, c'est assez clair. Vous descendez étage par étage et tous les premiers étages, en partant par le haut, sont consacrés aux Jeux Olympiques en eux-mêmes, c'est-à-dire les souvenirs, les grands moments des Jeux, des vidéos, des skis, des médailles, il y a énormément de choses. Et puis le rez-de-chaussée, on en vient effectivement à la legacy, à l'héritage social, environnemental, inclusif et tout ce qu'on veut. Donc le CEO ne se trompe pas, lui, il parle, en tout cas dans son musée, il parle d'abord d'organiser les Jeux Olympiques et ensuite de ce qui va en rester. En France, on a tout fait à l'envers. Je voudrais savoir si, selon vous, le CEO a sa part de responsabilité dans ce que moi j'estime effectivement le fait de confondre parfois l'objectif et les conséquences. Est-ce que le discours du CEO a changé? Est-ce que le CEO demande avant tout effectivement de se préoccuper de l'héritage et de la politique avant le sport?
Cyril, alors beaucoup de chemin couvert, donc les réponses sont courtes certes, mais un peu développées tout de même, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas qu'aujourd'hui on ait fait à l'envers en France. Je ne pense pas pour la raison suivante. Chronologiquement, le sport, dans l'organisation des Jeux, il vient 10 ans avant l'ambition, 10 ans après l'ambition. Les 17 jours, c'est 10 ans après la conception d'un projet qui commence en 2014. Et dans un projet comme celui-ci, on sait qu'au bout de la ligne, il y a ces 17 jours pour faire briller les basketteurs et les handballeurs. Pas de doute avec ça. Mais par contre, pour que cela se matérialise et qu'on puisse dire les Jeux ont été un succès, après ces 17 jours, toute la conception, toute l'ambition qu'on y met dans le domaine social, environnemental, comme dans la rigueur économique, ça se conçoit dans la durée. Et c'est pour cela qu'en France, on a beaucoup insisté, effectivement, auprès des collectivités, notamment pour adopter le concept de Club 2024. Pourquoi ? Parce que c'est l'engagement sur le terrain ultra capillaire des communautés. Et si ça ne passe pas par le sport et par les élus locaux, ça passe par qui ? Par les écoles, c'est extrêmement bien fait, aujourd'hui avec les 30 minutes de sport. Mais en gros, ces programmes-là, ils se conçoivent dans la durée, 10 ans plus tôt, et les 17 jours, celles des 3 premiers étages du musée olympique, c'est normal, parce que c'est ça qui nous fait vibrer, c'est cette émotion-là. Tout le reste, ce que l'on retrouve après les Jeux, qui est une partie centrale, aujourd'hui on ne conçoit plus un projet sans qu'il soit logique et s'inscrive dans la durée. Il faut que ce soit des projets intelligents qui laissent un héritage. Eh bien cela, on le retrouve au dernier étage du musée olympique, mais on le retrouve en tête de pont sur ce projet-là. C'est la logique chronologique.
Christophe Cession.
Alors, s'il y a du géobashing en France, c'est peut-être aussi parce qu'on est l'un des rares pays à ne pas demander à la population son avis avant de se porter candidate à l'organisation des Jeux. Alors que dans beaucoup de pays, des référendums sont organisés et malheureusement pour les Jeux, des référendums qui sont souvent négatifs. C'est plus pratique de décider sans consulter, mais le revers de la médaille, ben ce sont les Jeux. Bashing, est-ce que aujourd'hui, il ne faudrait pas demander à chaque fois à tous les pays qui souhaitent organiser les Jeux de consulter leur population, Christophe?
Christophe, je pense qu'il ne faut pas confondre vote et avis, parce que oui, l'avis était demandé aux Français, Et ça, je peux vous le dire parce qu'on l'a fait aussi, nous, de façon indépendante.
Avec des sondages.
Avec des sondages. Mais les sondages, généralement.
On peut dire un peu souvent ce qu'on
non,
dit.
Non. Il y a quand même une rigueur intellectuelle et méthodologique derrière les sondages. Là, je suis désolé, je peux pas vous dire qu'on biaise les sondages. Ça n'est pas le cas. Ça ne sera jamais le cas. Donc, il y a des sondages. Ces sondages démontrent au fil du temps un attrait et un soutien massif pour les Jeux Olympiques. Et puis oui, au fil du temps, ils évoluent un peu moins, peut-être un peu plus, et vous verrez qu'au moment des Jeux, ça sera énorme. Une chose que je souhaitais vous dire, parce que Cyril, vous l'avez dit tout à l'heure, les Français sont durs avec eux-mêmes. Vous savez, si on regarde les Jeux Olympiques de l'étranger, vous savez quel constat on fait de la Chine en passant par le Japon et les États-Unis? Les États-Unis sont les prochains. Ils nous disent, mais comment on va faire pour faire aussi bien? Et puis nous, depuis la Suisse, on regarde toujours le grand frère français à côté. Et on est très admiratif. Donc il y a aussi effectivement cette perception de la France par le système français, la perception de l'extérieur est réellement différente.
Avant de laisser la main sur ce dossier-là, on parlera de la cérémonie d'ouverture dans quelques instants à Fred Weiss et Olivier Giraud. Une question, qu'avez-vous, qu'est-ce que le CIO a envie de dire aux Français pour apprécier ces quelques mois, ces quelques jours qui vont arriver avant les Jeux Olympiques? Quel message vous voulez faire passer pour dire aux Français, ça suffit?
Les Jeux Olympiques de Paris comme exemple pour le futur. Les Jeux de Paris comme plateforme de transition vers des Jeux Olympiques qui sont vraiment responsables, qui laissent un héritage durable. Et ça, vous avez su le faire jusqu'à présent. Il faut avoir confiance dans un système qui est intelligent et pleinement mobilisé. Vous savez, c'est la première fois que je travaille, par exemple, avec les hauts fonctionnaires français. Je travaille avec beaucoup de fonctionnaires dans le monde. Vous n'imaginez pas la qualité des gens qui s'impliquent chez vous. Et il faut avoir confiance dans ces gens-là. J'entendais, évidemment, dans le florilège de la chanson, les transports. Évidemment, les transports. Vous en connaissez, vous, des systèmes de transport public aussi sophistiqués qu'à Paris? Moi, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, il faut avoir confiance. Évidemment, les Jeux Olympiques, c'est compliqué. Ça fait un peu peur parce que c'est du volume, c'est de l'exposition. Mais dans le même temps, voilà, vous avez des gens qui savent faire, de vrais experts. Donc, ayez confiance et surtout soyez fiers.
Moi, Christophe, et je peux juste rebondir par rapport au transport aussi. Est-ce que vous êtes conscient que, et est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où le maire de la ville qui accueille les Jeux Olympiques se lance en disant on aura des problèmes de transport, on ne sera pas prêt, il y aura des soucis, les prix vont augmenter. Est-ce que vous étiez d'accord avec cette communication ou comment ça vous impacte, vous, de savoir que ben, finalement, ce sera très compliqué au niveau des transports?
Je rappelle juste que c'était il y a quelques mois, Anne Hidalgo, dans l'émission Quotidien sur TMC, avait dit qu'on ne sera pas prêt.
Fred, dans l'organisation des Jeux, il y a une chose qui est essentielle, c'est de garder du recul par rapport aux grands équilibres. Est-ce que, si moi, vous m'aviez demandé si le système de BRT à Barra sera prêt sur toutes les lignes avec toute la capacité au moment des Jeux de Rio, certainement pas. Et ce ne fut pas le cas sur tout le dispositif. Et ce que l'on fait, c'est que si une rame doit être déficiente ou si une station devait être fermée, on s'adapte. C'est ce que vous avez vécu, vous, en tant qu'athlète, c'est l'adaptation par rapport aux conditions, par rapport au contexte. Donc voilà, si à un moment donné, il devait y avoir un problème sur une des réalisations, croyez-moi, il y a vraiment des moyens et les transports seront prêts dans leur globalité. On livrera les transports à la fois aux citoyens comme aux participants des Jeux.
Il y a les faits il y a la communication. Alors sur les faits, j'entends ce que vous dites et vous avez beaucoup plus d'expérience que nous par rapport à ça, mais dans cette communication directement de cette maire de Paris qui s'implique en disant on aura un problème de transport. Est-ce que ça vous inquiète pas, le fait que, encore une fois, il y a les faits et la communication? Mais en termes de communication, vous pensez
elle le fait en guéguerre politique pour
oui, mais bien Valérie sûr, mais la communication ça, qui ressort même... de ça, c'est oui, un vrai
ça,
problème.
Ça, c'est au détriment, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça, c'est au détriment des JO, parce que ça va largement au-delà de la qualité de l'organisation, qui a été très bien soulignée par Christophe, et ça fait plaisir de l'entendre. C'est des guéguerres politiques, et c'est ça qui alimente quand même la défense.
Ça nuit aux Jeux Olympiques, ça?
Ça garde le système sur la pointe des pieds, comme on le dit chez les anglo-saxons. Et d'une certaine façon, à 6 mois d'émettre un doute sur l'ensemble des réalisations, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas prêt, mais c'est de dire, soyons vigilants. C'est peut-être une façon de maintenir la pression. Maintenant, je n'étais pas à sa place au moment où elle l'a dit. Mais voilà, ça permet en tout cas à tout le monde de se dire, et s'il devait y avoir un problème? C'est ce qu'on appelle les plans de contingence.
On est moins en retard qu'à Athènes en 2004, de toute façon. Là,
on ne parle pas de retard dans le cadre des Jeux de Paris.
Voilà, c'est ça. C'est tout a été rendu quasiment. Il y a des clés qui vont être rendues pour les dernières.
Oui, mais les clés, c'est une chose parce que effectivement, de l'extérieur, le plus simple à observer, c'est le bâti. Et puis il y a tout le reste. Le reste, c'est l'organisation. Et ça, c'est réellement compliqué. Et sur l'organisation, on vient de passer 3 jours avec des experts qui viennent du monde entier, des différents domaines, de la technologie à la sécurité, en passant par les comités nationaux, les fédérations internationales. On passe au travers de l'ensemble des points de l'organisation des Jeux. Et le constat est celui-ci. Il n'y a pas de retard. Est-ce qu'il y a des ajustements? Mais alors absolument. Est-ce qu'il reste du travail? Bien sûr. Ça s'appelle le détail et le volume à ce stade. Mais par contre, il n'y a pas de retard.
Et ce n'est pas un sujet, car on le sait, Paris sera prêt à accueillir ces Jeux Olympiques, mais il y a plein d'autres, évidemment, thématiques, et notamment la cérémonie d'ouverture avec Olivier Giraud. On en parle dans quelques instants. Christophe Dubi, le CIO, est face aux grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC. On revient dans quelques instants.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h25 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Weiss, Olivier Giraud, Cyril Linette, Christophe Cessieux, notre invité exceptionnel durant une heure, le CIO. Christophe Dubi, le directeur exécutif des Jeux Olympiques au Comité International Olympique, est notre invité ce matin. Parlons désormais de la cérémonie d'ouverture avec vous, Christophe. C'est le 26 juillet prochain. J'imagine que vous avez coché cette petite case dans votre agenda. Avec une cérémonie inédite, c'est vrai, pour des Jeux Olympiques, la scène. Mais depuis quelques mois, la jauge ne cesse de baisser. La volonté de Paris, c'était 1 million. Et puis nous sommes descendus à 600 000, puis 320 000 aujourd'hui. On a appris cette semaine, d'ailleurs on en parlait ce matin dans l'émission, que sur les quais, ce ne serait plus une billetterie gratuite et ouverte à tous, mais sur invitation. Concrètement, est-ce que cette cérémonie commence à inquiéter le CIO? Christophe.
La cérémonie, lorsqu'elle nous a été présentée, le premier concept, hein, c'était Thierry Reboul. J'en ai encore la chair de poule. On était trois à entendre ce premier concept. Et puis aujourd'hui, de l'idée initiale à sa réalisation, on est vraiment très très proche. Alors, est-ce que j'ai la chair de poule? Toujours. Parce que les tableaux qui ont été conçus par Thomas Joly sont d'une profondeur, d'une intelligence, d'une élégance incroyable. Les Français seront vraiment très très fiers de ce qui sera réalisé. Est-ce
Mais
que c'est une cérémonie compliquée? Est-ce qu'elle est compliquée? Sans aucun doute. Est-ce qu'elle est réalisable? Bien sûr. Est-ce que la gratuité est conservée? C'est le cas. Sauf que les billets sont distribués. Par contre, sur une jauge à plus de 300 000 personnes, on est encore à 6 fois, voire 10 fois, n'importe quel autre stade. Donc c'est une cérémonie ouverte, c'est une cérémonie généreuse, c'était le principe.
On est au double de la contenance du stade olympique de Berlin où avait eu lieu la cérémonie des Jeux de
36. Voilà.
Voilà. Bon, c'était pas les Jeux les plus populaires de l'histoire non plus. Hein. On se rend compte de la difficulté, notamment en termes sécuritaires. Arriver à sécuriser 8 kilomètres de défilé, on s'est rendu compte, et ça a été un cauchemar pour les gens chargés de la sécurité, que c'était impossible. Est-ce que vous avez aussi des frissons, de l'angoisse, parce que c'est un formidable terrain de jeu aussi pour tous les illuminés de la planète, cette cérémonie d'ouverture?
Alors, si vous aviez la chance d'avoir Laurent Nunez à ma place, vous faisiez référence à l'une des émissions du soir où il était du reste très bon il y a quelques semaines, il vous parlerait pas de cauchemar, mais probablement d'un défi. Parce que oui, c'est un défi. Mobiliser 45 000 hommes pour ce soir-là, c'est un véritable exercice sécuritaire avec l'ensemble des forces à mobiliser, des services d'intelligence aux personnes qui contrôleront ces périmètres quelques jours auparavant. Est-ce que le système français est capable de faire? Aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est une opération unique, extraordinaire? Aucun doute non plus. Mais confiance totale du CIO dans la qualité des interlocuteurs et dans le savoir-faire. Vous savez, depuis 2015, les choses ont beaucoup évolué. Ces jeux sont conçus dès le départ pour répondre au plus haut risque possible. Et le contexte que vous évoquiez tout à l'heure, le contexte international qui a évolué, n'a que finalement très peu d'influence, peut-être pour certaines délégations, mais sur le système qui est mis en place par les autorités, ça reste le même, et pour la cérémonie d'ouverture, pareil.
Je ne sais pas si vous le savez, j'imagine que oui, mais en France, il y avait un gros mot. C'était plan B. Ça, c'était un gros mot en France. On avait un plan A, c'était la scène. Et puis, on s'aperçoit, d'ailleurs selon nos informations, que le plan B, c'était ce système dû à la sécurité, et ça, je pense que tous les Français l'entendent, sur le carton d'invitation. On parle d'un plan C qui serait une jauge encore réduite, ce qui est une éventualité. Et puis on parle d'un plan D qui évidemment serait mauvais pour le CIO, mauvais pour les Jeux Olympiques de Paris, ce serait une cérémonie qui pourrait se faire au Trocadéro avec évidemment un nombre limité de personnes. Est-ce qu'on a les mêmes informations? Est-ce qu'il y a ce genre de d'échelonnage prévu?
Je n'ai pas fait partie de ces séances-là.
Donc, il n'y en a pas pour vous. Pour vous, il y a un plan A ou un plan B, on se tient à ça.
Alors, on l'appelle A, B ou C. On ajuste la jauge en fonction du niveau de risque, en fonction de ce que le système de sécurité est capable d'absorber. Et ça, je trouve que c'est une réponse extrêmement pragmatique. Et ce que j'ai entendu cette semaine de la part du ministre Darmanin, ça me paraît extrêmement logique et bien conçu.
Mais aller ailleurs que sur la Seine, Trocadéro, Stade, est-ce que ça, c'est possible? Et j'imagine que Paris en a parlé avec le CIO.
Non.
C'est pas dans une éventualité.
On n'a pas parlé de ce plan-là.
Donc ce sera sur la
Seine. On n'a pas parlé de ce plan-là avec le CIO que je représente ce matin.
Très bien. Olivier Giraud.
Alors, moi, je vais aller sur le plan de la, un peu géopolitique qui, pour moi, est important parce que les Jeux ont beaucoup évolué depuis. C'est-à-dire que la sécurité prend énormément de place aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais partir des Jeux d'Atlanta où on a oublié qu'il y avait eu un attentat à Atlanta où, en termes de sécurité, c'était... pratiquement des étudiants qui faisaient la sécurité. Je me souviens que c'était pas une sécurité poussée comme on veut l'avoir aujourd'hui.
Et t'étais pas à Munich en 72
il y a deux questions à travers ça. C'est qu'on ne peut pas cacher parce que qu'il y a la guerre partout dans le monde. En Afrique, au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, Yémen, Birmanie, Nigeria, Syrie. La guerre en Ukraine et en Russie. Aujourd'hui se rajoute la guerre palestinienne et le Hamas et de l'autre côté les Israéliens. Il y a deux questions là-dessus, c'est qu'il y a 20 ans ou 30 ans, un pays qui serait en guerre ou qui ne respecterait pas les droits de l'homme, comme était l'Afrique du Sud, était exclu des Jeux, de manière automatique, condamné par tout le monde. Aujourd'hui, tous ces pays, même lorsqu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, on trouve des systèmes pour pouvoir faire venir leurs athlètes. On va parler des Russes, par exemple. Est-ce que on pourrait s'imaginer, si les conflits continuent comme ceci, que à un moment, il y a une réflexion au sein du CIO sur une possibilité que des Jeux ne puissent pas avoir lieu un jour? Et la deuxième question, c'est aussi la position des athlètes, qui souvent, on disait, les athlètes ne font pas de politique, mais on s'aperçoit que les athlètes aussi, par pression, font de plus en plus de politique. Quid des sports de combat si demain un sportif israélien se retrouve en face d'un sportif palestinien? Est-ce que c'est prévu ça? S'il refuse de serrer la main, s'il refuse de combattre, est-ce qu'il y a quelque chose qui sont prévues par le CIO dans ces cadres-là?
Christophe Duby, vous avez 3 heures. Évidemment, question sérieuse.
Bon, je crois qu'il y a deux questions. Une sur les conflits. Et l'autre sur les athlètes. Et je crois qu'il va falloir distinguer les athlètes des institutions. Et vous verrez que la distinction est importante. La première sur les conflits. Non, au contraire. Au contraire, parce que si aujourd'hui vous avez 120 millions de personnes déplacées dans le monde, si vous avez 80 millions de réfugiés dans le monde, c'est parce qu'il y a les conflits que vous évoquiez, mais il y en a bien d'autres et qui durent dans le temps. Donc la réponse, ça n'est pas de ne pas organiser les Jeux, bien au contraire. C'est d'organiser les Jeux pour montrer que le sport n'est pas politique et que le terrain de jeu sur lequel vous étiez, quand vous vous êtes mesuré aux autres meilleurs handballeurs du monde, c'est ça que l'on crée au cours des Jeux de Paris. C'est montrer que la communauté internationale peut, malgré toutes les tensions, malgré le contexte géopolitique, se rassembler autour d'un idéal simple, celui d'avoir les meilleurs athlètes sur un terrain de jeu, autour de règles qui sont définies par les fédérations internationales. C'est ça, les Jeux Olympiques. Maintenant, sur la question des athlètes. Les athlètes doivent faire de la politique s'ils le souhaitent. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on s'engage avec un pays comme la Chine, on leur dit « Une chose est fondamentale, Cyril, c'est que chacun puisse s'exprimer, y compris s'il ou elle a des opinions politiques. » Et c'est ce que nous avons obtenu de la part du gouvernement chinois. Par contre, un athlète a le droit de pouvoir s'exprimer, mais vous, les athlètes, vous avez décidé entre vous que ça n'était pas sur le terrain de jeu. Ça n'était pas lors d'une cérémonie.
C'est pas Smith et Carlos qui lèvent le poing ganté, ça c'est interdit.
C'est interdit entre eux, c'est la règle qu'ils ont définie et que l'on va respecter, nous, en tant qu'institution. Parce que aujourd'hui, si vous êtes capable de dire ce que vous souhaitez sur un plateau, ça doit être pareil dans une conférence de presse. Par contre, et c'est là que je fais la distinction avec les institutions, le CIO ne peut pas faire de politique. Le sport ne peut pas faire de politique. Est-ce qu'on est influencé par la politique ? Bien entendu. Est-ce qu'on doit trouver, comme dans le cas dont on va probablement parler, par rapport aux Russes, est-ce qu'on doit trouver des solutions par rapport à un contexte politique ? Bien sûr, mais le CIO ne fait pas de politique. Et ça, c'est important.
Justement, merci beaucoup. C'est exactement ce que j'allais poser comme question. Quand on parle du CIO et on parle des athlètes russes, on sait qu'ils sont autorisés sous bannière neutre, ouais, seulement, entre guillemets, s'ils n'ont pas affiché des opinions politiques favorables à Vladimir Poutine. D'accord ? Donc comment vous contrôlez ça ? Et ma deuxième question, elle est un peu différente, mais bien sûr, un peu cette idée. Il y aura des officiers de sécurité, forcément, pour protéger toutes ces personnes qui sont un peu antagonistes pour être positif. Est-ce qu'ils seront admis avec des armes dans le village olympique ?
Alors, sur le contrôle, nous sommes très clairs au niveau du CIO. Effectivement, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées par les athlètes neutres. Évidemment, de s'être soumis au contrôle antidopage, de ne pas être lié à l'armée, de ne pas avoir fait de déclaration, d'être qualifié, bien évidemment. Et ces contrôles-là seront indépendants. On a une source indépendante qui vérifie tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui monitore en permanence les différentes déclarations des athlètes qui aujourd'hui sont qualifiés. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir cette vision indépendante, une partie tierce qui peut nous guider vers la décision, oui ou non, au bout du compte. Quant à la deuxième question, il faut la poser aux forces de sécurité françaises.
Mais vous êtes quand même... Alors, j'entends qu'il faille la poser aux forces de sécurité françaises, évidemment. Mais moi, je vous pose la question à vous. Quelle est votre opinion par rapport à ça ? Est-ce que vous pensez que c'est un endroit où les armes n'ont pas lieu d'être ? Ou, bah, vu le contexte actuel, géopolitique actuel, c'est peut-être obligatoire de les avoir quand même ?
Vous imaginez poser la question à un civil, la question du port d'armes dans un endroit stratégique comme le village olympique, je ne peux pas y répondre. Si je réponds à cette question-là, c'est une faute professionnelle grave. La sécurité, c'est les gens qui sont habilités à avoir, une information confidentielle, ce sont les services d'intelligence, et sur des décisions aussi importantes que cela, ce sont à ces gens-là d'évaluer le risque. On ne peut pas, nous, vous ne pouvez pas autour de cette table, ne serait-ce qu'avoir un avis sur la question. Ça ne serait pas juste, faisons confiance aux gens comme Laurent Nunez et les autres qui sont en charge de cette question fondamentale.
La réponse est claire. Christophe Cessieux.
Christophe, le sport et les Jeux ont toujours constitué un véritable terrain de jeu géopolitique pour les gouvernements de tous les pays. Depuis que les Jeux sont Jeux, c'est plus facile d'ailleurs pour un gouvernement de menacer, de boycotter une édition des Jeux Olympiques ou de demander de certains pays ne participent pas, alors que dans le même temps, on continue de faire des affaires commerciales entre ces pays qui se vilipendent sur le terrain sportif. Vous n'avez pas un peu l'impression de temps en temps d'être le jouet des politiques, même si vous voulez vous déclarer apolitique et neutre, mais on a l'impression qu'ils profitent des Jeux Olympiques pour justement animer leur bagarre.
Christophe Dubi est avec nous sur RMC.
La plateforme est belle, elle brille, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus d'intention. Cet été, c'est comme disent les anglo-saxons, the whole media landscape that is dominated by the games. En gros, on domine le sujet, tous les sujets de l'actualité en passant par le sport, et la plateforme est utilisée. Alors, est-ce la rançon du succès ? Peut-être. Est-ce que finalement on revient à la raison ? Toujours. Et c'est ce que les éditions les plus récentes, qui étaient quand même sous haute tension, ont démontré. Donc, il y a une certaine normalité à cela. Et puis, vous parlez des politiques. Il y a d'autres causes qui sont aujourd'hui abordées grâce ou sur la plateforme Jeux. Je me souviens de tout ce qui s'est passé avant les Jeux de Beijing et les différentes thématiques qui étaient abordées. Vous avez, au travers de la chanson, abordé la question des syndicats et des grèves. C'est normal. Aujourd'hui, la plateforme la plus puissante, ce sont les Jeux Olympiques.
Sur la partie, on va dire sur le conflit Russie-Ukraine, la position est assez claire. Sur le conflit Israël-Palestine, pour le moment, il y a le CIO est dans une position où il n'a pas agi particulièrement. Est-ce que cette situation ne vous inquiète pas quand même? Parce qu'elle est très évolutive. Il reste 4 mois. On a le sentiment quand même que plus les semaines passent, plus la riposte d'Israël aux attaques du 7 octobre divise l'opinion internationale, met un peu à distance hein, les opinions publiques, parce que le Hamas fait son travail de communicant et ça a l'air de prendre. On voit que dans certains pays très alignés avec Israël, y compris les États-Unis, y compris Joe Biden, y compris Kamala Harris, il y a quelques propos qui commencent à être un petit peu négatifs par rapport à Netanyahou et donc par rapport à Israël. On sait que depuis 72, voilà, c'est un État qui peut être fragile, dont ses athlètes peuvent être fragiles dans le cadre international. Est-ce que cette situation-là n'est pas la plus sensible de toutes? Est-ce qu'on peut pas imaginer que ce soit à la fois pour surprotéger les athlètes israéliens, pour prendre d'autres décisions? Il y a eu des bombardements qui ont abouti, je crois, à la mort d'un entraîneur palestinien. Enfin, il y a des choses dans cette guerre qui ont touché directement des athlètes ou des installations palestiniennes. On a le sentiment que ce sujet n'est pas particulièrement sensible. Et qu'est-ce qui peut encore être fait d'ici quelques mois?
Ok. Cyril, je crois qu'il y a trois niveaux de réponse. Le premier, c'est de compatir avec tous ceux qui souffrent aujourd'hui. On évoque un entraîneur, des familles. Ce sont des conditions qui sont effroyables. Et vous, je ne sais pas, mais moi, à chaque fois que j'ouvre un poste de radio ou de télévision, ça me déprime total. Donc ça, c'est la première chose et c'est vraiment dramatique. Après, je pense que Olivier nous a rappelé tout à l'heure le nombre de conflits ouverts aujourd'hui dans le monde. Et puis Cyril, vous poussez le curseur, évidemment, sur un des conflits qui domine le débat actuellement. Mais le troisième niveau, et c'est la réponse, c'est qu'il faut réellement distinguer la politique du sport. Et si aujourd'hui, on a une situation bien particulière avec le sport russe, dont nous sommes à quelque part victimes, je le rappelle, depuis 2014. On souffre depuis 2014. Aujourd'hui, Israël et Palestine sont des comités nationaux qui cohabitent. Aujourd'hui, vous avez des participants israéliens, israéliennes, y compris récemment lors des championnats du monde de natation au Qatar. Et sur le terrain de jeu, aujourd'hui, les comités nationaux n'ont pas commis d'infraction contre le code du sport, ce qui n'est pas le cas de la Russie. En Russie, le CNO est suspendu. Distinguons la politique du sport et laissons au sport la chance de faire ce qu'il peut faire, réunir tout le monde, y compris les Israéliens et les Palestiniens au moment des Jeux.
C'était très clair, votre position. Je voudrais juste passer à un thème un peu plus léger parce que là, les sujets étaient lourds sur la politique. Un peu. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était il y a quelques jours quand on lui a demandé s'il allait se baigner dans la Seine.
Vous allez vous baigner dans la Seine?
Il y a eu des engagements pris.
Vous allez vous baigner?
Mais moi, oui, j'irai.
Quand?
Ben, je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là.
C'est le président de la République. Question centrale, Christophe Duby. Question que tout le monde se pose. Est-ce que le CIO va se baigner dans la Seine également?
Alors, le CIO dans son ensemble, je ne sais pas. Si vous voulez la réponse de mon côté, sans aucun doute. Vous savez, j'étais dans la baie de Botafogo au moment des jeux de Rio. Bon, c'est autre chose. Là, aujourd'hui, on est sur un dispositif qui arrive aujourd'hui pratiquement à terme, hein, avec des travaux majeurs qui ont été entrepris. Ces investissements qui permettront notamment de traiter les eaux de pluie lorsque ce sera nécessaire, avec beaucoup plus d'efficacité que jusqu'à présent. On avait le préfet Guillaume qui était avec nous et qui faisait le compte-rendu des travaux en cours et pratiquement terminé, avec, encore une fois, tous ces investissements qui vont se matérialiser dans les semaines qui viennent, avec, alors sans aucun doute, une qualité de l'eau qui sera largement suffisante pour les Jeux.
Sans aucun doute.
Vous serez sans mieux aucun à vous baigner dans le lac Léman quand même, hein, je vous conseille.
Annecy.
Fred.
Annecy, chez les voisins. Annecy, ouais. Encore mieux.
Fred, pas rapidement sur le sujet.
Ben, justement, vous me tendez la perche. Anna Marcella Acuna, qui est la championne olympique de natation en eau libre, a dit que c'était pas fait pour se baigner, justement, la Seine, et qu'il faudrait un plan B impérativement. Et ça me fait rebondir aussi sur ma deuxième question. Donc, est-ce que vous avez un plan B si c'était pas possible? Et le triathlon qui était supposé avoir lieu, s'il y avait le même problème, ne pourrait pas avoir lieu en l'état. Est-ce qu'on passerait sur un duathlon? Et est-ce que ça vous conviendrait comme solution?
Alors, la première chose, c'est que on doit faire beaucoup plus d'efforts. On doit aujourd'hui pouvoir expliquer aux athlètes, on parlait de transparence et pas de langue de bois. On doit aujourd'hui être capable de rassurer la communauté des triathlètes et des nageurs en eau vive sur le dispositif, parce que nous, ce que l'on a entendu, c'est extrêmement rassurant. Les mesures que l'on a prises, alors que tout n'était pas en place l'année passée, c'était quand même pas mal du tout. Donc, on doit pouvoir informer les athlètes de façon à ce qu'elles puissent prendre une position qui est probablement sur des bases un peu mieux informées qu'aujourd'hui. Première chose, et ça, c'est à nous de le faire. Donc là, il y a vraiment un déficit de communication de notre côté. Deuxième chose, plan de contingence, bien sûr, et ça s'appelle 2 jours de compétition en triathlon, 2 jours de compétition en eau vive, et si nécessaire, des reports le temps que la qualité de l'eau s'améliore. Et c'est cela que l'on va faire. On ne parle pas de duathlon, on parle éventuellement d'un report des épreuves si la qualité de l'eau n'était pas au niveau souhaité. Et ça, j'ai une conviction profonde, c'est que nous n'aurons pas besoin de recourir à ce plan de contingence.
Et si vous deviez le faire, jusqu'à quand? Parce qu'à un moment, il y a quand même une date butoir à la fin des Jeux.
On a 17 jours de compétition. Et c'est ça la beauté d'un système qui est planifié quand même bien à l'avance. Vous le savez, dans les sports d'hiver en ski, on commence pourquoi par les descentes et les super-G, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la météo que des slaloms sur la fin des Jeux. On l'a vécu à Pyeongchang, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. On conçoit le triathlon de façon à ce qu'on ait des jours de réserve. Idem pour la nage en eau vive.
Christophe Duby, le directeur exécutif des Jeux Olympiques au CIO, est notre invité exceptionnel ce matin dans les grandes gueules du sport. Il répond aux questions des GG, les questions que l'on se pose sur les Jeux Olympiques de Paris. On en parle souvent dans cette émission. On revient dans quelques instants pour la dernière partie des JO du futur. Il y aura des questions là-dessus, je sais. On voudrait parler aussi un petit peu de dopage avec Olivier Giroud. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 avec notre invité exceptionnel ce matin, Christophe Duby, le directeur exécutif des Jeux Olympiques au CIO. Le CIO face aux grandes gueules du sport. La dernière partie de cette interview, toujours avec les GG Cyril Linette, Olivier Giraud, Fred Weiss, Christophe Cessieux, Olivier Giraud, tu voulais poser une question sur le dopage, on t'écoute.
Ouais, c'est simple, c'est l'AMA, l'Agence Mondiale Antidopage, a-t-il pu faire son travail, voilà la plateforme Adams, sur les sportifs ukrainiens et russes pendant ces 2 ans? Parce qu'on sait que il y a eu beaucoup de problèmes avec ces pays-là, voire un dopage étatique. Et là, le conflit a peut-être empêché ces contrôles qui sont importants. On sait que le dopage, c'est pas se doper à l'instant, c'est quelque chose qui est organisé en amont. Est-ce que la plateforme Adams et l'AMA a pu faire son travail?
Olivier, merci pour la question. Elle est essentielle. Réponse, oui. Dans le sens où dans la liste des éléments que l'on exige de la part des athlètes russes, bélarusses comme les autres, les Ukrainiens, c'est de pouvoir entrer dans le système international de lutte contre le dopage, et notamment au travers des qualifications, donc de la participation aux événements des fédérations internationales. Évidemment que les règles antidopage était parfaitement respecté. Il y a un certain nombre de critères. Le premier, c'est d'être qualifié. Le deuxième, c'est d'avoir justement pu répondre aux critères de lutte antidopage. Réponse, oui.
La réponse est oui du CIO. Christophe Cessieux.
Je ne sais pas si vous avez lu cette info parue il y a quelques jours, Christophe. Un milliardaire américain, notamment fondateur de PayPal, envisage de créer une compétition où les athlètes participants auraient le droit de se doper. Et il a déjà des investisseurs derrière lui et il compte lancer cette opération assez rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut prendre des parts de marché aux Jeux Olympiques, ou alors l'honnêteté qui prévaut justement aux Jeux restera toujours le maître mot, et que cette entreprise est vouée à l'échec?
Je réponds avec un angle.
Celui que vous avez choisi, allez-y.
Vous avez des enfants autour de la table?
Oui.
Les auditeurs, ils ont aussi des enfants? Moi j'en ai un. Il a 21 ans. Puis s'il m'avait dit à l'âge de 10 ans, moi je vais m'inscrire dans un sport où à partir de maintenant je vais pouvoir me doper parce que je veux faire partie de ces jeux-là, vous auriez fait quoi, vous, en tant que parent? Vous y croyez, vous? Non mais honnêtement, c'est impensable. La santé, l'intégrité avant toute chose, c'est ça le sport. Mais vous imaginez une compétition où ceux qui ont des moyens, beaucoup plus de moyens, alors seront forcément devant? C'est impensable. Donc, est-ce que je dois y répondre vraiment? Non. C'est pour ça que je prends un angle. Impensable.
Merci pour cette réponse claire. Vous êtes donc tombé des nues avec cette information. On en avait parlé dans les grandes gueules du sport. Le CIO et les Jeux Olympiques, évidemment, confrontés à des défis du futur. Et puis, ces nouveaux Jeux Olympiques, comment vous les voyez? C'est vrai que, par exemple, il y a pas mal de nouveaux sports. Il y en a pour Paris avec le breakdance, l'escalade, le skateboard. Et puis, pour les Jeux Olympiques de 2028, il y en aura 5 autres. Des différents, d'ailleurs, ce qui fait perdre aussi, par exemple, le breaking ne sera pas présent en 2028 alors qu'il est présent en 2024. Est-ce que là, le CIO, avec l'intégration de ces nouveaux sports, tout est OK? Ou on décide finalement de ces nouveaux sports en fonction du lieu où on va? Est-ce que ça, c'est un problème?
Non, au contraire, une opportunité. Mais alors, est-ce que je me réjouis de voir Kid Mario ou Oriane Burton pendant ces Jeux? Sans aucun doute. Et puis, est-ce que dans le futur, on aura toujours ce panachage entre des sports historiques et puis des pratiques plus locales ou contextuelles? Sans aucun doute, parce que ça permet une chose, c'est d'avoir encore plus d'engagement des milieux sportifs du pays concerné. Et quand on prend effectivement le programme de Los Angeles, c'est un programme finalement très américain. Mais ce que l'on souhaite, c'est des jeux qui soient à la fois internationaux, qu'ils aient de l'attrait à la fois au Pakistan, au Sénégal, en Suisse et aux États-Unis. Et si on peut aider à la popularité au travers de sports à caractère américain, comme c'est le cas ici avec le choix qui a été fait pour la France, eh bien, ce sont des jeux qui sont réellement populaires au niveau international et local.
Quel est le sport que vous voudriez avoir qui n'a jamais été à l'affiche des JO, que le CIO se dit « Ah, pourquoi pas ?» L'e-sport ?
Bon, ben, l'e-sport, on est en train de l'intégrer pleinement, hein, avec une politique aujourd'hui qui est alors assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on travaille avec les gens de l'e-sport. Parce que c'est une vraie réalité aujourd'hui.
Oui, mais en marge des Jeux Olympiques, pas forcément. Non, mais
en marge des Jeux, parce que les Jeux sont déjà quand même suffisamment gros, suffisamment imposants, volumineux, difficiles à organiser. Par contre, d'avoir un événement séparé pour l'e-sport, ça a beaucoup de sens, me semble-t-il.
Ok, Christophe.
Moi, je voulais aller vers d'autres jeux, les jeux d'hiver, parce que vous n'êtes pas débarrassé des Français pour autant. C'est-à-dire que à la fin du mois d'août, eh ben, vous aurez encore les Français dans les pattes avec sans doute ces jeux d'hiver organisés en 2030. Déjà, est-ce que c'est une certitude, Christophe, ou il reste encore quelques obstacles à passer avant d'être désigné ville ou région officielle?
J'aime pas du tout quand on me dit que on sera débarrassé des Français. Pour nous, la relation avec les Français, elle est vraiment exceptionnelle. Et la raison pour laquelle on peut se projeter en 2030 avec les Français, alors là, on a travaillé beaucoup sur l'été avec Paris, on travaille beaucoup avec les Alpes françaises par rapport à 2030, c'est justement parce qu'on a cette relation de proximité et de confiance, que ça fonctionne extrêmement bien. Vous avez, au niveau politique, administratif, au niveau sportif surtout, une très très grande qualité, un savoir-faire dans l'organisation d'événements, que ce soit ici à Paris ou dans les Alpes françaises. De Nice au Grand Bornand Lacluza, vous avez vraiment de vraies capacités et puis un domaine, un terrain de jeu exceptionnel. Paris est fabuleux comme backdrop pour les sports d'été. Et puis les Alpes françaises seront exceptionnelles.
Alors,
que reste-t-il à faire?
Val d'Isère, justement, vous savez, la station mythique du ski français qui avait été mise sur une carte et qui a été retirée. À la demande du CIO, parce que je crois que vous vouliez resserrer, c'est ça ce qui s'est passé? C'est vous qui avez demandé à ce qu'il y ait moins de sites sur ces Jeux de 2030?
Le CIO ne demande pas de retirer une communauté ou une autre. Vous imaginez si on faisait ça? C'est de l'ingérence sur de la politique locale, régionale, nationale. On n'a pas le droit. Par contre, on a le droit de poser un certain nombre de principes. Et le principe est relativement simple. Les sites, plus vous en avez, plus le coût est important. Plus vous les regroupez, plus ça a du sens du point de vue opérationnel, économique et à quelque part en termes de durabilité, si on revient sur la toute première intervention de tout à l'heure. Donc voilà, ce qu'on dit nous, c'est que lorsqu'on regroupe, on est plus intelligent que le système. Alors après, où est-ce qu'on regroupe? Ça, c'est vraiment, mais alors vraiment pas une décision que l'on doit prendre. On ne doit pas nous pousser dans cette direction-là parce qu'encore une fois, ça serait perçu comme de l'ingérence. Et ça, on ne peut pas se le permettre.
Encore quelques instants, s'il vous plaît.
Juste une question par rapport au choix des sports que vous avez établi. Vous avez dit qu'il faut qu'ils soient locaux, etc. Quand vous choisissez le lacrosse qui n'est pas pratiqué de cette manière, qui n'a jamais fait de compétition à ce niveau-là, vous ne vous mettez pas en difficulté par rapport à un sport que peu de gens connaissent, pratiqué principalement dans les pays nord-américains, et dans une formule qui n'est pas habituelle, en fait.
Bon, 2m15, je pense que vous pouvez aller dire, vous, aux Américains, que ça fonctionne pas, le lacrosse.
Non, moi, mais c'est pas dit que ça fonctionne pas. C'est une version différente que vous utilisez.
Moi, avec mon 1m75 tout mouillé, pas sûr. Non. Alors, encore une fois, oui, il y a des adaptations dans le sens où les communautés qui le pratiquent ne sont pas organisées exactement comme pour un tournoi olympique. On a encore 4 ans pour y arriver. Donc, voilà. Le lacrosse, c'est un sport qui est extrêmement populaire, notamment au niveau universitaire. En termes de structure, ils vont y arriver, aucun doute, Fred.
Dernière question, Olivier Giraud.
Il reste un continent qui n'a pas accueilli les Jeux. Aujourd'hui, on donne les Jeux
rapidement,
par
Olivier,
deux pays. Est-ce que on va aller en Afrique un jour?
Olivier, alors, réponse très rapide, oui. 2026, Sénégal, au mois de novembre, les Jeux de la jeunesse, un projet extrêmement ambitieux. C'est plus que du test, parce que lorsqu'on sort des Jeux de Gangneung et qu'on sait qu'on aura de futurs champions olympiques à Milan, on sait qu'au sortir des Jeux de Dakar, on aura les champions olympiques à Los Angeles. Donc c'est plus qu'un petit événement. C'est réellement un bel événement olympique.
On avait à moitié
Dakar,
répondu, mais je prends.
Sénégal, novembre.
Ok, ça c'est ok.
Et ensuite, mais... les vrais Jeux olympiques? Les vrais de vrais en Afrique?
Ensuite, on se projette sur 2036. En 2036, la décision n'est pas prise. 2040, certains nous disent, on veut être là en 2040. C'est voilà un témoignage de l'attrait des Jeux Olympiques, parce que voilà, on fait de plus en plus juste, notamment ici à Paris. Ça donne envie aux autres. 2036, 2040, pourquoi pas l'Afrique, évidemment.
Et 2024, c'est donc les JO de Paris, à partir du 26 juillet, organisés, orchestrés par le CIO Christophe Duby. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, directeur exécutif des Jeux Olympiques.
Merci
au CIO.
Merci.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite?
On se souhaite qu'à la fin des Jeux paralympiques, on refait le tour de table. Ouais. Et puis, on a tous un verre sur la table, parce qu'on est vraiment tellement tous fiers de ce qui a été réalisé. Parce que ces ambitions qui ont été définies il y a bien des années, eh bien, on les aura pleinement achevées. Donc, voilà, on fait ça.
On fait ça, on prend date, avec grand plaisir, RMC, radio officielle des Jeux Olympiques, et nous serons là pour vous accompagner. Merci infiniment, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et donc à bientôt sur RMC, le rendez-vous est déjà pris, c'est magnifique. C'est merci Christophe Duby, à bientôt. Merci beaucoup aux grandes gueules du sport, Cyril Linette, Olivier Giraud, Christophe Cessieux, Fred Weiss.